Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rodez. C'est un programme toutes les deux semaines en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron, l'association départementale d'aide aux victimes et de médiation. Avec moi dans les studios aujourd'hui, l'une des deux médiatrices familiales diplômées d'État de l'ADAVEM 12, Lucia Ventila. Bonjour Lucia.
Bonjour David.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Bon, content de te retrouver dans nos studios une nouvelle fois, Lucia. Une nouvelle fois à côté de toi et avec toi dans les studios, nous avons aussi Laurence Guédon. Bonjour Laurence.
Bonjour David.
Très heureux aussi de vous accueillir, Laurence. Ça vous plaît, hein, la radio? Vous aimez bien ça?
Ah oui, j'aime assez. On aime parler, nous les avocats.
Ah, voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui, Laurence, vous êtes avocate de métier au barreau de l'Aveyron et vous êtes aussi, on l'a appris lors d'une précédente émission à retrouver en podcast d'ailleurs sur cfmradio.fr, qu'il y a quelques années, vous aviez vous aussi passé le diplôme d'État de médiatrice familiale, une activité parallèle mais que vous mêlez aussi avec votre activité d'avocate. Vous nous l'avez expliqué. Votre mémoire, parce que tout ça c'est hyper sérieux, hein, c'est attention, c'est pointu, c'est des études, hein, médiatrice ou médiateur familial.
C'est langue.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est des études. Ouais.
C'est du boulot.
Et intéressante.
Ouais, bon,
c'est un diplôme d'État.
Voilà. Et notamment aussi un mémoire, Laurence, que vous avez dû réaliser, travailler, et qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser au rôle du beau-parent dans la médiation familiale. Et c'était le sujet de votre mémoire. Vous avez passé où ce mémoire, Laurence?
À Paris.
Ah, oh là là, ça s'est bien passé?
Oui, très bien, puisque je suis diplômée.
Ah, ouais. C'est ça. Vous avez eu quelle note? Il y a une note, hein?
Ah non, je dirais pas note sur les ondes.
Ça doit être une bonne note, parce que moi j'ai vu le rapport. Son titre, c'est « La médiation familiale, une opportunité pour le beau-parent de trouver sa place dans un contexte de recomposition des familles ». Et ouais, le beau-parent, alors peut-être pas une place centrale dans la médiation familiale, mais j'imagine une place très régulière que vous devez rencontrer souvent dans vos différentes situations, Lucia, normalement.
C'est l'un des sujets de débat et de discorde, on peut dire. Qu'en général, après une séparation, les choses peuvent se passer bien entre les parents, concernant les enfants, la résidence et tout ça. Mais les problèmes commencent, de ce que j'ai constaté, souvent, quand une des parents trouve un nouveau conjoint ou une nouvelle conjoint.
C'est là, oui.
Et c'est là que les accords de médiation commencent à ne tenir plus, que les jugements, inclusivement les jugements, ils sont mis sur question. Et voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, quel est le rôle et la place de beaux-parents, donc de nouveaux conjoints. Et c'est le sujet de mémoire de Laurence aussi, une très bonne et très intéressante mémoire. Merci de le partager aujourd'hui avec nous.
D'autant plus que ouais, les recompositions familiales, les beaux-parents, enfin, ces dernières décennies, c'est devenu le truc hyper courant, quoi. Il y a au moins autant de beaux-parents que de parents tout court. Non, j'exagère, mais enfin, c'est vraiment très très courant comme situation. Pourquoi, Laurence, vous avez choisi ce sujet-là?
Parce qu'au cours de ma formation en tant que médiateur, j'ai été amenée donc à déterminer que beaucoup de, comme vient de le dire Lucia, beaucoup de nœuds de conflits tournaient autour de la venue du beau-parent. Quand on parle de beau-parent, on parle d'enfant, hein, par définition.
Eh oui.
Hein, qui,
dans beau-parent, il y a parent.
Voilà, qui venait en contact avec les enfants, que ce soit dans le cadre d'une résidence alternée, hein, ou bien dans le cadre tout simplement de droits de visite et d'hébergement dits classiques, c'est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Et ça cristallisait beaucoup d'émotions de la part du parent que j'appelle dans mon mémoire le parent opposant, entre guillemets.
Hein. D'accord. C'est-à-dire
le parent
qui n'est pas content,
qui ressent des émotions,
pas,
lorsqu'un tiers à son couple parental vient au contact des enfants. Quand je dis vient au contact, c'est-à-dire habite dans la même maison ou dans le même appartement, enfin dans le même lieu de vie, reçoit les enfants, peut interagir avec ses enfants, peut même leur donner des ordres, puisque les maître des lieux aussi.
Oui,
hein,
il y a des enfants.
Voilà.
Face,
et voilà. Donc ça peut créer des tensions. Et ça revient de façon récurrente dans les médiations.
Ouais, j'imagine.
Pas forcément directement et d'emblée.
D'accord.
Mais on sent dans le cadre de la médiation, dans le développé des deux premières phases de la fameuse roue dont on viendra peut-être de Fiutac, qui est notre, disons, notre chemin en tant que médiateur, notre guide, on voit apparaître la figure du beau-parent, de la marâtre, du parâtre, comme on dit dans les contes de fées.
Ah ouais, ouais, la marâtre. Alors, en plus, voilà. Le terme, alors, je sais pas, pour moi, il est connoté péjorativement, négativement, c'est le cas ou pas? Même dans les textes ou dans la littérature. Ouais, marâtre, ça fait pareil. Si je t'appelle la marâtre, Laurence, t'es pas contente.
C'est devenu un terme péjoratif au cours de l'histoire. Ah. À l'origine, non, le terme était absolument neutre puisqu'il s'agissait du suffixe aster en latin qui veut dire autre que mère, autre que père.
Ouais, voilà, qui est quand même pas très positif non plus. Parce que autre
c'est un tiers, d'accord. C'est neutre en principe. Hein. Après, c'est devenu marâtre parâtre parce que dans les contes de fées, Blanche-Neige, Cendrillon, on voit apparaître.
Plus marâtre que parâtre hein, d'ailleurs. Parâtre, j'ai pas
plus,
souvent entendu.
Oui.
Hein,
oui,
c'est
oui,
encore
oui,
les
oui.
femmes qui prennent là sur ce coup-là.
Ouais, ouais, ouais. Le père et la mère avaient sociologiquement un rôle bien défini et très différent de tout temps. Maintenant, ça a tendance à se confondre. Mmh, hein, historiquement, sociologiquement et même juridiquement, père et mère avaient un rôle bien défini dans la société jusqu'à il y a quelques décennies.
La mère au foyer, à l'éducation des enfants, le père au travail.
La mère dans la maison, voilà. Le père à l'extérieur, voilà, qui travaille à l'extérieur. Voilà. Et puis, qui est l'autorité, le pouvoir, la loi, alors que la mère est plutôt dans le care, ce qu'on appelle le care, CARE maintenant. Ouais. On peut en parler longtemps.
Oui, oui. Bon, on en reviendra.
Voilà, donc il y a plus de concurrence entre mère qu'entre père. Semblerait-il dans les statistiques aussi. Et cette concurrence perdure.
Alors, je reprends le titre de votre mémoire, hein, Laurence, la médiation familiale, une opportunité pour le beau-parent de trouver sa place dans un contexte de recomposition des familles. Bon, dans cet intitulé, il y a aussi c'est comme ça que je le perçois. L'idée, c'est que si vous posez la question, c'est qu'il y a une question qui se pose. Ça veut dire que la place du beau-parent, c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas réglé, c'est pas défini. En médiation familiale, Lucia, concrètement, comment ça se passe? Il a sa place d'emblée, c'est prévu dans vos études là.
Ça dépend du médiateur, ça dépend de la situation, donc c'est fait sur mesure. Pour moi, il y a, on peut interroger si les beaux-parents ils ont une place. J'ai pas mal de sollicitations, c'est vrai, de la part de la maman d'enfant, de faire une médiation avec la belle-mère.
D'accord.
Pour clarifier un petit peu les rôles, le rôle que la belle-mère a auprès de ses enfants, comment et combien elle s'implique, jusqu'à où, quelles sont les limites, quel cadre on met, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ses enfants. Et qu'est-ce que j'observe quand je commence à questionner, c'est un petit peu la peur de la mère de ne perdre pas la place de mère devant ses enfants.
Et oui.
Et c'est là que aussi on doit travailler avec le parent, de l'assurer que jamais elle va perdre pas en place et de pouvoir laisser tranquille les enfants vivre une semaine ou le week-end, ça dépend de la résidence, avec l'autre parent parce qu'il existe, on ne peut pas le nier, il existe, des fois il est propriétaire de la maison et c'est le papa qui vient, j'ai eu récemment une demande comme ça, le papa il a déménagé dans la maison de l'actuelle conjointe et la mère se pose le problème, ils vont dormir où les enfants, pourquoi monsieur il déménage lui chez la nouvelle conjointe, comment on va se passer les choses. Donc, il y a plein de questions, des inquiétudes, des attentes de la mère, des besoins. Et pour moi, oui, si les personnes sont d'accord et il y a vraiment des choses à clarifier, la belle-mère ou le beau-père, ils peuvent avoir une place en médiation parce qu'ils ont le mot à dire. Ils ont beaucoup des obligations, mais moins des droits. Et qu'est-ce qu'on fait quand il existe physiquement?
Parce que bon, alors dans le cas de médiation familiale où justement le beau-parent est au cœur du conflit, pour moi ça me semblerait évident quand même. Même soit tu dis, il peut, donc c'est même pas obligatoire. Bon, pour moi, ça me semble évident qu'à un moment donné, il intervienne. Ok. Mais dans d'autres cas de médiation familiale où a priori le beau-parent est pas en cause, c'est juste peut-être un parent qui a un différend avec ses enfants ou je ne sais quoi. Alors que le beau-parent est bien là dans le foyer, ce beau-parent-là, il a pas forcément sa place.
Mais ça dépend. Si tu dis qu'il n'y a pas des problèmes, il peut avoir sa place. Après, qu'est-ce que tout comprendre par avoir sa place?
Qui participe à la médiation familiale.
Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile, sa présence en médiation?
Alors moi, je ne sais pas, hein, mais moi, je me dirais autant qu'un parent
des problèmes,
normal.
En général, les personnes viennent en médiation quand il y a des points différents, des problèmes à régler, du conflit, pas de communication. Si tout c'est bien, il n'y a pas raison que le beau-parent vienne. Il vient seulement, il ne sollicite les personnes quand il y a un problème.
Ouais, mais même quand il y a un problème, pas forcément entre les beaux-parents, les ceci, les cela, mais juste un parent avec ses enfants. Et que ce parent-là, homme ou femme, il partage sa vie avec un beau-parent. Dans ces cas-là, vous le considérez comme si, à proprement parler, le père ou la mère de ses enfants en question, il participe à la médiation ou pas?
Et si le problème c'est entre le parent et ses enfants, moi je vois pas l'intérêt d'inviter le beau-parent en médiation parce qu'on déséquilibre un petit peu. Là, on est dans une médiation qui est spécifique, un processus qui est spécifique, médiation parent-ado, pour remettre la communication, refaire le lien entre le parent et l'adolescente. Et c'est un processus très spécifique, d'accord. Si on invite, en quel but on va inviter le beau-parent dans la médiation? Parce que là, on va avoir deux parents qui font un front commun contre l'enfant et c'est très déséquilibré. Et on doit être très vigilante à l'équité.
D'accord.
Et pour nous, tous doivent avoir le même place. Et on fait pas une alliance avec. On ne laisse pas que les deux parents font une alliance contre l'enfant.
Laurence, dans votre travail, votre mémoire, et puis votre travail aussi, je rappelle que vous êtes avocate par ailleurs, donc ces situations, vous les rencontrez aussi à ce titre-là. Donc le beau-parent, grosso modo, ouais, comme vous dites, là, le matamarat, là, c'est autre que
c'est un tiers. C'est un tiers par rapport à la loi aussi.
C'est comme un chien. C'est comme un. Non, mais bon.
Pas tout à fait. Mais non, le beau-parent, en fait, n'a pas de définition légale. Et n'a pas de droit ou d'obligation légale.
D'accord, d'un point de vue juridique.
Voilà, d'un point de vue juridique, il est ignoré.
D'accord, mais dans la loi française, à aucun égard, le beau-parent...
À aucun égard, dans la loi française.
N'a une existence française.
Non,
concrète.
Aucun.
Ah ouais.
Aucun. Non, non. Alors, il peut être paxé. Hein,
oui, alors là, oui.
Voilà, mais ça n'a pas d'impact sur le lien avec les enfants,
d'accord,
avec le foyer.
Ça conduit à aucune obligation, devoir particulier.
Non, 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 non. Pas dans le cadre de l'autorité parentale, par exemple.
Hein. D'accord.
J'ai fait.
Alors que concrètement, dans les faits, c'est pas forcément le cas. Mais un beau-parent, enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vas-y, range ta chambre. Enfin, tu vois, il peut donner des ordres.
Alors là, on rentre dans le quotidien.
Ouais.
Hein. L'autorité parentale, c'est prendre les grandes décisions qui relèvent de la vie de l'enfant. Hein. La grande décision, range ta chambre, c'est pas une grande décision.
Ouais.
Hein.
Oh bah,
c'est
ouais.
Voilà. Mais c'est du quotidien.
D'accord.
Et la loi ne vient pas régir les rapports quotidiens des personnes en dehors des rapports extrêmes, infractions, etc. Voilà. Donc, le beau-parent, en tant que tel, n'est pas examiné par la loi.
D'accord. Mais ça veut dire, excusez-moi, je vais encore...
J'ai une question, je vous l'ai dit, excusez-moi David, mais si cet beau-parent, il est le tuteur légal de voilà là
oui,
je
mais là
pense
il est en
change.
Tant que tuteur
ouais.
Il est pas
ouais.
en tant que beau-parent
ouais mais il est
ah oui, ça,
il a une double
ne pas
casquette
beau-parent et tuteur.
Alors
il est
oui.
tuteur et beau-parent
oui mais beau-parent je m'explique, beau-parent ne donne pas d'emblée un statut légal au sein de la famille.
Ce qui veut dire que
voilà.
par exemple ouais,
dans... il peut être choisi par le juge comme personne de confiance
ouais
Mais ça pourrait très bien être une grand-mère, ça pourrait être un oncle ou une tante.
D'accord.
Il se trouve que là,
Ou le voisin.
Voilà, mais personne de confiance, c'est pas parce qu'il est beau-parent, c'est parce qu'il est personne de confiance,
d'accord.
parce qu'il a été en contact, ou il est en contact avec l'enfant.
Parce qu'il peut y avoir des cas où tout va bien dans une famille recomposée, avec les enfants, bon, bah, la séparation a eu lieu, ils étaient tout petits, bon, ils gardent des contacts peut-être avec leur mère, je sais pas comment on dit, physique, bon, bref. Mais ils s'entendent super bien avec leur beau-père et leur belle-mère, qu'ils considèrent pas loin comme d'être un parent direct et qui prend des décisions pour elle comme le ferait un parent naturel, entre guillemets. Hein. Dans ces cas-là, vous voulez dire que l'autre parent, le vrai parent, il pourrait dire, ah non, mais oh, C'est pas toi qui va prendre ces décisions-là.
Très souvent le cas.
Alors que sinon, à part ça, dans le foyer, tout le monde est d'accord.
C'est très souvent le cas.
Ah, c'est très souvent le cas.
Très souvent le cas. Il y a un très beau film qui est sorti il y a quelques années avec Virginie Efira qui s'appelait Les enfants des autres, je crois.
Alors là, faut pas me demander cinéma.
Que je cite notamment dans mon mémoire parce que c'est quand même, ça illustre bien, où la belle-mère qui est interprétée par donc Virginie Efira et le père donc par Roche Dizem se séparent à un moment.
Oui.
Et la belle-mère a interagi beaucoup avec la petite fille de Roche Dizem, je ne me souviens plus des noms exacts des personnages. Mmh. Et la belle-mère qui se sépare, donc qui ne sera encore moins que rien du coup, séparation, se demande comment et si elle peut garder contact avec la petite fille avec laquelle elle interagit pendant plusieurs années.
Et donc la réponse est non.
La réponse dans le film est non, mais ça pose une question.
Ouais, alors ça pose une question, vous la posez en tous les cas à travers ce mémoire, c'est bien qu'il y a un sujet, mais si j'ai bien compris, grosso modo, concrètement, les recours du beau-parent dans cette situation-là, il est nul.
Non, et c'est le propos de mon mémoire, c'est que je me suis dit peut-être que la place du beau-parent la médiation pourrait être un outil, pour définir la place du beau-parent dans ce contexte de parents fantômes au regard de la loi. De beaux-parents, pardon, fantômes au regard de la loi.
Parce que quand même, on est dans des situations, enfin je veux dire, on n'est pas dans des cas rarissimes, pas possible, où la loi, bon, elle peut dire, attendez, les personnes à trois bras, ça existe, mais on ne va pas faire une loi pour ça. Mais là, il y a quand même un sujet, donc concrètement, oui, j'imagine qu'en médiation, Lucia notamment, tu dois te retrouver souvent avec des situations... qui arrive à toi, parce que par la loi ne dit rien, ça n'existe pas, donc c'est à vous de, allez hop, on vous balance le bébé. Ah, non mais c'est un peu ça.
Ça peut arriver, mais récemment j'ai eu une demande de médiation de la part de trois enfants, ils sont majeurs, ils sont grands, d'accord, qui ont un papa âgé. Cet papa, il est en couple avec la belle...
une femme.
Oui, de la femme, depuis 24 ans.
Ouais.
Et elle n'a pas trouvé encore une place dans cette famille. Elle est tout le temps prise dans un conflit entre les enfants, les inquiétudes des enfants.
Ah, les enfants, qui n'ont toujours pas accepté.
Le père. On va voir encore, je suis en train de faire ce processus, on va voir comment ça se solutionne. Mais ce n'est pas facile, ni pour le père qui doit choisir tout le temps au calmer les jeux entre les enfants et sa femme, ni pour la femme qui vit là, qui a acheté une maison ensemble avec le papa, qui a des droits, mais qui est mis à l'écart, et ni pour les enfants qui ne se sentent pas comme chez eux quand ils rentrent dans la maison de leur père parce que c'est une belle-mère qui est là. C'est pas facile du tout la médiation, et on parlait tout à l'heure pour ne déséquilibrer pas la balance, mais c'est pas le cas parce que l'enfant il est majeur, mais elle a accepté de venir en médiation. Mais avant de me donner une réponse, elle avait des craintes et des peurs que qu'est-ce qu'elle va faire en médiation, elle toute seule contre trois personnes.
Oui.
C'est pas facile pour elle de verbaliser, de dire des choses quand elle sait que les enfants, ils peuvent faire bloc. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, j'entends que c'est difficile pour vous. Peut-être que si on choisit une porte-parole... fratrie. Est-ce que c'est acceptable pour vous en ce moment? C'est plus simple d'entendre des choses de la part de vos beaux enfants. Et j'ai vu son soulagement à cet moment. Il a dit oui, c'est possible ça, parce qu'elle avait des choses à dire, des choses qu'il a vécues, qui n'étaient pas tout le temps positives, mais elle avait des choses à entendre aussi. Et c'est plus facilement d'entendre une seule voix que trois.
Que trois, oui, c'est sûr. Et alors là, le cas que tu présentes...
L'affaire à suivre,
d'accord. Ouais, le cas que tu présentes, c'est celui où le beau-parent est entre guillemets un peu victime, quoi, souffre d'une situation de ne pas être accepté par les enfants, machin. Mais des fois, bon, le beau-parent aussi, franchement, ça peut être lui le problème.
Le diable.
pas loin quoi.
Ouais, mais là on voit dans la situation que vient de décrire Lucia, un système où le parent n'est pas le problème. Le problème, c'est la recomposition.
Ouais.
Et en plus, on voit ça dans le cadre d'enfants majeurs. On parle pas que des enfants mineurs dans la belle parentalité, hein. On parle aussi des enfants majeurs. Imaginez par exemple le problème auquel doit faire face cette belle-mère. hein, ou cette nouvelle femme, s'il s'agit de s'occuper d'un mari vieillissant. Je vis au quotidien avec monsieur X qui a 20 ans de plus que moi parce que je suis dans le cadre d'un remariage. Les enfants veulent que monsieur parte en maison de retraite et moi je veux pas, ou l'inverse.
Ouais,
je souhaiterais, parce que je ne peux plus m'occuper moi de cette personne vieillissante au quotidien, les enfants s'opposent à toutes les initiatives que moi l'épouse je prends pour alléger ma charge de travail, me permettre de continuer à travailler et s'oppose à toute interaction d'une autre personne tierce au foyer, par exemple une aide familiale, et s'oppose encore plus à l'idée d'un placement en maison de retraite. C'est des choses extrêmement, extrêmement concrètes. Hein. Et c'est à nouveau la place du beau-parent. Que peut décider la personne en question. Et la médiation, je pense, dans ces cas-là, peut nous ouvrir des portes, en tout cas, peut nous ouvrir un espace propice à un dialogue et qui pourra permettre de trouver des solutions contractuelles, on va dire, hein, donc qui ne sont pas... Le contrat fait faisant la loi des parties, hein, contractuel à un problème humain est rempli d'émotions. Et ça, ça m'a paru une évidence. Maintenant, c'est peut-être moins évident pour les médiateurs qui sont confrontés à ces systèmes. Il y a certains médiateurs qui proposent, alors j'ai jamais vu le cas, hein, qui proposent de se substituer aux beaux-parents pour accueillir la parole des opposants à ce beau-parent et la transmettre si la présence en médiation du beau-parent est insupportable pour l'un ou pour l'autre. Et j'ajouterais quelque chose tout à l'heure par rapport à ce que disait Lucia très bien, c'est que accueillir le beau-parent, encore faut-il, dans l'espace de médiation, donc physiquement, encore faut-il qu'il y ait une demande.
Oui.
Une demande de la part d'un des parents, du nouveau conjoint par exemple, une demande de la part des enfants, une demande de la part du parent que j'appelle opposant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une demande, parce que la médiation, c'est une volonté de rencontre.
Je rebondis ici, il faut aussi une acceptation de tous les parties.
Et une acceptation.
Et l'utilité de l'inviter.
Ah bah oui, c'est pas systématique. Ouais.
La place des beaux-parents dans la médiation familiale, c'est le thème de notre émission, le BC de la médiation familiale, cette semaine sur CFM Rhodes. On va poursuivre, peut-être entrouvrir quelques-unes des portes que vous avez évoquées, Laurence, pour cette place des beaux-parents dans la médiation familiale dans la deuxième partie. Avant ça, musique, toujours, avec la sélection, le choix, l'envie, le plaisir de Lucia Ventila. Qu'est-ce que tu nous proposes de partager ensemble, Lucia?
Est-ce qu'on va voir si c'est sur, pour ton plaisir aussi, Laurent, j'espère que tu es
J'aime tout.
Vas-y. T'es pas difficile.
Non, mais tes choix, surtout tes choix.
Ah, merci, voilà. C'est gentil. Florent Pagny, si tu veux m'essayer.
Oh là là. Bah volontiers, sur CFM Rhodes.
Si tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines, je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. S'il le faut, je me ferai sorcier. Si tu veux m'essayer, sans jurer toujours, juste pour y goûter, sans parler d'amour. Sans que l'on se blesse. Si tu veux m'essayer, si ça t'intéresse, sans vraiment t'engager, mensonge et promesse, je serai le plus doux pour te décider.
L'ABC des médiations familiales, deuxième partie, émission toujours bien sûr en partenariat avec l'ADAVEM de l'Aveyron, l'association départementale des deux victimes et deux médiations. Avec moi dans les studios cette semaine, Lucia Ventilla, qui est médiatrice familiale, diplômée d'État à l'ADAVEM 12, et Laurence Guédon, qui est avocate au barreau de l'Aveyron, d'une part c'est sa formation initiale, et qui est aussi depuis quelques années diplômée, médiatrice familiale. Et on s'intéresse aujourd'hui notamment, en particulier, à son mémoire, à l'occasion de l'obtention de ce diplôme. Je rappelle le titre, c'est des trucs de mémoire, c'est un peu long, mais vite fait, allez. La médiation familiale, une opportunité pour le parent de trouver sa place dans un contexte de recomposition des familles. Et donc, nous, notre sujet cette semaine, c'est la place des beaux-parents dans la médiation familiale. Donc, j'ai déjà appris dans la première partie avec vous, mesdames, que bon, le beau-parent, en fait, ouais, c'est pas un fantôme, enfin bon, c'est vraiment partie négligeable d'un point de vue légal, déjà, dans le droit, et partie médiation familiale, excuse-moi, Lucia, c'est à la bonne volonté du médiateur familial.
Non, pas vraiment à la volonté de médiateur, parce que nous, on ne décide pas grand-chose en médiation.
Ne fais pas ta modeste.
On doit être humble. Voilà. C'est en fonction de l'accord de... et la demande, comme elle a dit Laurence tout à l'heure, la demande des médias, des personnes, et l'acceptation de tous les parties présentes en médiation.
Mais même dans ces cas-là, si on me demande et si tout le monde est d'accord, tu as le droit de dire non, moi, je ne sens pas.
Oui, on a cette, on va dire, bon, parce que tu m'as dit de n'être pas modeste, on a ce pouvoir,
pouvoir
de accepter ou de n'accepter pas quelqu'un en médiation. Après, évidemment, qu'on a fait une bonne et belle analyse sur le sujet, d'accord, sur la demande.
Sur la situation.
Mais ouais. Après, si on trouve que vraiment sa présence est nécessaire, on ne se pose pas. Seulement par orgueil ou par je ne sais pas quoi, hors de question de ça.
Vous, dans votre mémoire, notamment Laurence, vous avez, je sais pas, trouvé des genres de critères là ça serait bienvenu, là ça peut s'imposer indépendamment, ou s'imposer entre guillemets, mais indépendamment de la bonne volonté, excuse-moi Lucia, du médiateur qui a envie ou qui n'a pas envie.
Alors, en fait, il faut se placer du point de vue du médiateur. Moi, mon mémoire, c'était un mémoire de médiateur.
Oui.
Le médiateur, il n'est pas tout puissant non plus. Il doit garder une certaine posture, un certain recul. Donc, je me suis même posé la question de savoir si le médiateur pouvait proposer. A-t-il le pouvoir de proposer la présence du beau-parent en médiation? Et ça a été débattu dans le... Quand j'ai soutenu mon mémoire, il a été débattu que
tout le monde
n'est
pas d'accord. Quoi, alors.
Eh non,
ah ouais.
Eh non. Il n'est pas force de proposition, le médiateur. Il est là pour faire passer
écouter
la parole.
Eh ouais, d'accord, okay.
Donc, il y a certaines écoles de médiation qui sont moins directives que d'autres. Mm-hmm. Et il y a certaines écoles, au contraire, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de M. Durcel.
Nous avons eu sur CFM, par téléphone,
voilà,
parce qu'il est en Belgique.
Lui, il est favorable à la présence du beau-parent. Et il peut tout à fait, il se voit tout à fait suggérer un principe de présence physique du beau-parent.
D'accord.
En médiation. Il peut même se substituer, il a même proposé de se substituer au beau-parent si je ne trahis pas son propos dans l'espace de médiation. Donc il y a des médiateurs qui sont plus interventionnistes que d'autres,
d'accord,
plus force de proposition que d'autres. Il y en a d'autres, au contraire, selon les écoles auxquelles appartient le médiateur, qui doit s'adapter de toute façon, qui doit s'adapter aux situations. Personnellement, mais j'ai pas l'expérience de Lucia, mais personnellement, je serais plutôt de la catégorie des médiateurs qui suggèrent.
Parce que le beau-parent, il a une existence réelle, physique, concrète, en plus dans de très nombreuses situations. Alors déjà, si légalement, il n'existe pas, moi je trouve que ça serait, c'est quand même normal qu'à un moment donné, il soit pris en considération, au moins en termes de médiation familiale.
Tu sais, quand il existe et qui crée beaucoup de frustration, comme on a discuté tout à l'heure, quand le juge demande les revenus de foyer.
Ah, là, il existe. Ah, quand on parle bas. Bah ouais.
Là, il existe.
Ah, indirectement.
De pension alimentaire.
Ouais, presque.
Je vais pas lui donner tant. Elle est avec un milliardaire. Ou vice-versa, mais c'est ça.
En fait, oui, il y a eu un glissement dans les questions du juge. À une époque, on ne tenait absolument pas compte du revenu du
foyer,
du beau-parent,
ouais. hein,
puisqu'on parle de beau-parent,
ouais.
parce que on estimait que le beau-parent n'avait pas à contribuer, ne serait-ce qu'indirectement.
Mais s'il paie la moitié du loyer par nature, il
allez,
contribue.
Il y a eu un glissement, ouais, et maintenant ce glissement va dans le sens de, même si on ne raisonne pas en termes de revenus confondus du nouveau ménage, mm-hmm. on raisonne en termes de partage des charges.
D'accord. Donc, parce qu'en même temps, je comprends la loi, parce que le juge, il peut très bien dire, non mais attendez, bon là, elle est avec ce footballeur-là, mais dans 3 mois, donc je ne vais pas lui faire verser une pension alimentaire alors que le mec, il est millionnaire, mais peut-être que dans 3 mois, le footballeur, il sera parti ailleurs en même temps.
Ouais, mais ça se met pas noir sur blanc.
Oui, mais bon.
Non,
là, je peux comprendre. Non.
Ça, c'est l'impermanence du couple. Hein.
Ah, oui.
Là, on touche à l'impermanence du couple. Non, on raisonne surtout en termes de niveau de vie.
D'accord. Ah,
voilà. Et à propos de ça, tu sais où il intervient aussi, où il existe, à la CAF aussi, quand on a un parent isolé,
ouais.
le parent divorcé, d'accord, aux résidences d'enfants, il touche des allocations pour parents isolés.
Ouais.
Au moment quand cette parent se met en couple avec une autre personne et qui déclare à la CAF, ben, cette allocation, elle n'existe plus.
Juste en couple, même pas
juste
marié.
Juste en couple,
quoi.
Oui, il faut. Mais non, maintenant,
c'est
pas marié, c'est.
Bah ouais, mais au moins c'est un
pas
papier,
obligatoire,
ouais,
non, on n'est pas stigmatisé, on a évolué, on est en 2026.
Ouais, mais si tu veux,
David,
disons, le personne très très libre de mœurs. Bon, 15 jours, paf, 15 jours après, il n'y a plus personne. Tu vas pas refaire ton formulaire à la CAF tous les 15 jours. Ah bah non, je l'ai largué. Tu vas piquer les 15 jours après.
C'est le problème.
C'est à déclarer que tout vivre avec monsieur, madame, sur le même toit.
D'accord.
C'est là que l'allocation, ça s'arrête.
Ouais,
de parents isolés, à l'occasion de parents isolés.
D'accord. Bon, il y a plutôt pas intérêt à déclarer.
Donc tu vois, il existe, bon, il est pas vraiment un fantôme partout.
Ouais.
Il existe plus. Il est reconnu, pas reconnu. Mais le problème, c'est dans le foyer, d'accord,
ouais.
concernant l'éducation et combien ils s'impliquent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les enfants d'une autre personne.
Mmh.
Et c'est là que ça pose les limites, les problèmes, les débats, et c'est là qu'ils viennent en général en médiation.
Et alors, donc pour revenir à la médiation familiale et la place du beau-parent, en médiation familiale, on a bien compris que c'était pas par nature, pas évident, pas obligatoire, mais si j'ai bien compris, Laurence, vous étiez plutôt pour cette participation des beaux-parents dans une médiation familiale. Quand on est pour, c'est qu'il y a avantage plus qu'inconvénient. Et dans quel voilà, c'est quoi un peu vos arguments face aux gens qui n'étaient pas d'accord là? Qu'est-ce que ça apporte à part que le beau-parent, s'il veut bien venir, il est content d'être là?
Alors, je suis pour, mais pas systématiquement.
Ouais.
C'est pas une systématisation de la présence du beau-parent dès que la question tourne autour de son interaction, hein, du beau-parent, hein, et de son impact sur l'ancien foyer, le nouveau foyer. Non, je me disais que il ne fallait. C'était pour moi, la médiation était pour moi un outil qui permettait un processus qui permettait l'intégration du beau-parent et de la question du beau-parent dans les discussions pour dédiaboliser, par exemple, un beau-parent. C'est des exemples. Toute situation est différente. Hein. Par exemple, dédiaboliser un beau-parent jusqu'à lui permettre de s'exprimer directement face à la personne qui le fantasme, en fait.
Parce que dans tes situations à toi, Lucia, bon, c'est pas un sondage. Hein. Dans des situations de médiation familiale, tu dirais dans combien de pourcents des cas il y a d'une façon ou d'une autre, il y a un souci avec l'un des beaux-parents. Ça doit être énorme, non?
C'est énorme. J'ai pas fait une statistique, mais si on va dire qu'on a 90% de demandes. Non, attends, laisse-moi finir.
Oui, pardon.
Si on a 90% des demandes en médiation de séparation, parce que le reste, c'est succession, c'est médiation parent-ado, parent vieillissante, aide à la décision, médiation de couple.
Mm-hmm.
Donc, de 90%, peut-être que presque 50%, on parle, voire plus de 50%, on parle de la nouvelle conjointe au nouveau conjoint en médiation, ça c'est clair.
Ouais.
Voire plus.
Ouais.
Je ne vais pas me lancer dans une... je ne sais pas si toi, Laurence, tu n'as pas quelques chiffres à nous donner plus exact que la mienne.
Il n'y a pas des chiffres un peu généraux là, dans votre mémoire? Vous n'êtes pas tombé sur des chiffres, des études
des
là-dessus,
statistiques,
non?
Ou quelque chose.
J'ai eu accès à des statistiques sociologiques, ouais, sur le nombre de foyers recomposés. Alors, on estime à peu près 1 million de foyers recomposés en France. Alors, ça fait beaucoup, parce que qui dit foyer, c'est pas 1 million de personnes.
Non, hein. C'est 3-4 personnes par foyer.
Oui, voilà. Hein. Donc, imaginez, c'est exponentiel. Ouais. Voilà. Et également, sans compter, dans ces foyers recomposés, sans compter les parents et beaux-parents qui accueillent l'enfant, non pas en alternance ou à demeure, mais dans le cadre de droits de visite et d'hébergement.
D'accord.
Là, c'est exclu des statistiques.
Oui, d'accord.
Ah oui, parce que c'est impossible à quantifier.
Oui, d'accord.
Donc, c'est énorme. Le phénomène est énorme. Donc, il est incontournable.
Voilà, il est très important, très régulier, très quotidien dans l'exercice de la médiation familiale. Et j'ai envie de vous dire, en plus de représenter un certain nombre de très nombreux cas. Alors pareil, c'est une idée que je me fais, ça va être les cas, peut-être pas les pires, mais c'est vraiment les trucs, il y a des conflits pas possibles. Va rabibocher une ex avec celle qui l'a remplacée ou vice-versa, faire que les enfants, que l'une se sent pas un peu expropriée de son rôle de mère par la nouvelle qui vient de débarquer, et vice-versa, c'est des trucs pas possibles.
Et je veux mettre le doigt où ça fait mal, image-toi. À tout ce que tu viens de dire, j'ajoute, si la femme, elle était quittée
pour l'autre, ça rajoute.
Ouais,
parce que des fois,
après une séparation, c'est la nouvelle ou le nouveau compagnon qui intervient 2-3 années après la séparation. Ouais. Mais souvent...
Eh oui, tu te barres pour quelqu'un d'autre.
Elle est exactement quittée pour...
Non, mais c'est vrai, Laurence, des situations... Alors vous, aussi dans votre métier d'avocat,
oui,
c'est des trucs, des cas que vous devez rencontrer souvent et ça ne va pas être les plus faciles à démêler.
Non, mais tu parlais, David, de réconcilier. Il ne s'agit pas en médiation de réconcilier.
Non,
hein.
Non.
Il s'agit de les faire se communiquer.
Hein, mais dans ces cas-là, moi,
si ça peut amener à une réconciliation, pourquoi pas.
Mais le but
de la médiation, à mon sens, hein, mais je pense que Lucia partage mon avis, et je partage le sien en général, donc on est on va se rejoindre, c'est que les médiés se reconnaissent et se, sinon se comprennent, du moins communiquent. Et qu'on n'en reste pas à des situations cristallisées où les enfants souffrent, hein, parce qu'il faut bien le dire, ils souffrent, ou par exemple, la belle-mère, pour reprendre un schéma que j'ai rencontré et que je cite dans mon mémoire, la belle-mère a racheté la maison de l'ancien foyer à parts égales avec le père, à la suite du partage, donc est chez elle.
Ouais.
Véritablement, légalement,
ouais.
Hein, c'est
ouais.
chez elle, c'est ouais. sa maison, ça lui appartient par moitié avec son nouveau mari. Hein. Et le parent opposant, la mère des enfants, est interdite de franchir le seuil.
Ah, ça doit arriver, ça.
Dans la mesure où, voilà. Mais pourquoi ? Parce que la mère empêche les enfants de parler à la belle-mère quand ils sont chez... En fait, c'est leur ancienne maison. Voilà, mais ils n'ont pas le droit de parler à cette belle-mère. Et voilà la situation cristallisée. La médiation peut permettre peut-être de dédiaboliser la belle-mère vis-à-vis du parent opposant, de la mère biologique, de la mère des enfants, et également d'indiquer que peut-être qu'elle n'a pas le droit de franchir le seuil, mais les enfants le franchissent, ce seuil, et sont intégrés au nouveau foyer. Donc, permettre de faire comprendre que chacun doit être à nouveau, doit trouver une nouvelle place. Alors, je reprends le thème de la place, hein,
qui est
centrale et qui est centrale en médiation.
Parce qu'il y a un vrai sujet, vu qu'il y a, grosso modo, il n'a pas de place. Le bon parent,
personne n'a de place dans cette situation, ni la mère, ni la belle-mère.
Oui.
Ni les enfants.
Voilà. Et alors, les enfants, imaginez. Voilà. Et les enfants, bien évidemment, souffrent de cette situation. Donc, c'est ce que j'explique. Il y a des cas. Et ce que j'explique, c'est que la médiation peut permettre de, au moins, faire comprendre. Ou que une prise de conscience, en fait. C'est un processus qui permet à chacun, une prise de conscience. Hein, que est-ce qu'il est bon pour les enfants? Ça, c'est un jugement. Hein. Le médiateur ne va pas aller jusque-là. Mais une prise de conscience, est-ce qu'il est bon pour les enfants de leur interdire de parler à cette belle-mère qui a sa légitimité dans les murs, puisqu'elle en est devenue propriétaire, hein, en droit. Voilà. Il n'y a pas de réponse des tribunaux. Il n'y a pas de réponse de la loi, il n'y a pas de cadre légal, mais il y a peut-être une réponse en médiation.
Tiens, peut-être pour conclure dans cette émission autour de la place du beau-parent dans la médiation familiale, Lucia et puis Justine aussi, ta collègue, régulièrement, quand vous nous avez expliqué ce travail de médiation familiale, vous dites que parfois vous pouvez avoir à faire appel à des outils, entre guillemets, des cartes, des dessins, des meilleurs. Là, vu que ces situations, on a bien compris, alors toutes les situations, il y a rien de. L'être humain n'est pas rationnel, il disait n'importe quoi, l'autre. Bon, donc il y a beaucoup d'émotionnel, de trucs affectifs, de préconçus, de ceci, de cela, de rancœur, de machin. Dans ces situations-là, avec le beau-parent, il y a des outils plus particuliers qui correspondent à...
Ça ne me revient pas exactement, je ne m'attendais pas à cette question.
On est en direct.
On est en direct, oui. Mais peut-être qu'on peut symboliser, les beaux-parents ne sont pas présents physiquement dans l'espace de médiation, par exemple, mais ils sont présents par la parole, on peut symboliser la présence par une chaise vide, par exemple, ou par une figurine, par une Playmobil, une poupée. On peut le faire exister et on peut dire à la personne de s'adresser à ses... On fait ça des fois pour représenter les enfants, parce qu'en général, on parle beaucoup des enfants en médiation, mais sans les grandes absents physiquement. Bon, on peut recevoir des enfants en médiation, aucun problème, mais pas en tous les cas, d'accord?
Mais on
peut symboliser la présence, exactement, par la chaise vide, ou par une figurine, une poupée, une doudou, qu'est-ce que tu veux. C'est qu'est-ce que ça me vient maintenant vite fait dans l'esprit.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour éclaircir un petit peu ce sujet, puis nous avoir appris plein de choses. Moi, je ne savais pas que le beau-parent, grosso modo, il n'existait pas. C'était comme un fantôme, une présence, mais comme ça, juridiquement, dans les médiations familiales. Alors que, au quotidien, on en croise tous à longueur de journée, avec des situations qui se passent plus ou moins bien, mais c'est le truc vraiment hyper courant. Donc, il y a des débats dans le métier de la médiation familiale autour de ce sujet. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup, Laurence, pour votre participation en tant qu'avocate, je le rappelle, et puis à travers ce mémoire là, qui a été le cœur de notre sujet. Je rappelle le titre, La médiation familiale, une opportunité pour le beau-parent de trouver sa place dans un contexte de recomposition des familles. Moi, je l'ai en exemplaire universitaire, la brochée machinée magnifique. À la limite, on peut faire un livre. Et ça mérite très bien. Et ça sera le sujet d'un livre, Laurence.
Faudrait le retravailler.
Écoutez, pourquoi pas? Il y a un sujet.
Il a raison, David. Merci de ramener ce sujet. Merci de ramener ce sujet dans l'émission, parce que c'était un débat très intéressant et on a encore plein de choses à dire sur ce sujet. Et il y a des beaux-parents et beaux-parents, parce que tu as fait, avant que l'émission commence, une distinction de quels beaux-parents on parle.
Oui, c'est vrai qu'en sémantique française, le beau-parent peut viser deux types de personnes. Hein, le beau-parent nouveau conjoint ou le beau-parent parent du conjoint.
Beau-parent, parent du conjoint.
Ma belle-mère,
papy et les papys. Mais voilà, ils ont des places aussi peut-être. Mais sinon, c'est un autre sujet.
C'est d'un faux ami, le beau-parent, en français.
Bon, écoutez, c'est quand vous voulez.
C'est pas un faux ami en anglais ou en allemand, mais c'est un faux ami.
Ah, il y a des termes appropriés
en anglais et en allemand, oui.
Ah, mais ça, c'est un sens, ça. C'est important, ça. Mais qu'il n'y ait pas de terme spécifique pour ça en français. Bon, écoutez, c'est quand vous voulez pour le deuxième étage de la fusée, beau-parent. On se quitte en musique. Lucia, qu'est-ce que tu nous proposes?
Je pense que Pink, si ça te va. Just Give Me a Reason. J'aime bien.
Give Me a Reason. Ok, merci beaucoup.
Merci.
À toutes les deux et à très bientôt sur CFM.
Merci, David.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every
every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep.